Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Nous continuons le direct. Merci Maria et Isaïa pour l'émission Vibra SOS. Je leur disais tout à l'heure, avant qu'elles quittent le studio, que ça faisait du bien d'écouter un peu de fado. Notamment quand j'arrive en voiture, je sais pas, ça repose, c'est calme. Et un petit peu de lambada également. C'était sympa cette émission Vibra SOS. Et on continue avec l'émission Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, parce que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts. Oui, je suis un peu essoufflé. Et puis la rediffusion bien sûr de cette émission le mardi matin à 10h. Je suis seul dans le studio, je m'appelle Jean-Noël et j'aimerais bien que vous m'accompagniez pendant cette petite heure en nous envoyant des SMS au 06 95 065 026 06 95 065 026 26. Carole est absente aujourd'hui, mais on la retrouvera samedi prochain. Et donc, du coup, aujourd'hui, une émission, on va dire, classique, celle de la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, 23 février. Alors, on a eu une émission sur la culture portugaise. On partira au Portugal, notamment, avec cette colonie de champignons qui est en train de dévorer une cathédrale classée à l'UNESCO Portugal. On parlera de ça. On parlera également de la Lune, parce que franchement c'est pas Ibiza, c'est pas Saint-Tropez la destination qui fait rêver en ce moment, c'est la Lune. Même les Israéliens sont en route sur la Lune, il y a eu un décollage, c'était jeudi, on parlera de ça également. On parlera du festival du Carnaval de Nice qui est en train de tester la reconnaissance faciale, on verra dans quel but. Et puis on parlera aussi du réchauffement climatique, parce que ces derniers jours, il y a eu pas mal d'actualités, il y a eu pas mal d'études sur le réchauffement climatique. Une première étude qui nous annonce que les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, le fait que le réchauffement climatique va également changer la couleur des océans, et enfin de cette initiative de l'Australie qui souhaite planter un milliard d'arbres et compte ainsi pouvoir parvenir à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de dioxyde de carbone, booster également son économie, on parlera de ça. Et enfin de cette étude qui nous annonce peut-être le fait que le cancer du col de l'utérus pourrait avoir disparu à la fin du siècle. Ah, très bien, mais écoute, on va essayer d'en savoir pourquoi, et en tout cas c'est assez prometteur. Et enfin, si on a le temps, on parlera de cette dernière étude qui nous indique que les régimes hyperprotéinés qui sont pourtant en vogue en ce moment seraient peut-être mauvais pour la santé. C'est le programme que je vous propose dans cette émission aujourd'hui, 06 95 065 026, si vous souhaitez réagir en direct sur l'actualité scientifique de cette émission. Alors, vous écoutez Graphite, qui organise pas mal de partenariats, et notamment le partenariat avec le festival Le Temps qui Fuse, qui a lieu notamment, alors jeudi, je suis en train de regarder cela, jeudi prochain 28 février, le concert de Féroce à l'espace culturel de Tourotte jeudi soir. Et vendredi prochain, au Zicodrome de Compiègne, vous avez 4 groupes qui seront présentés. Rendez-vous T.O., j'espère que je les prononce bien, Péniche et Wild Raccoon. C'est jeudi donc à Tourotte et vendredi au Zicodrome de Compiègne. Renseignements sur la page de graphite.net et également la billetterie en ligne sur helloasso.com. Donc le festival Le Temps qui Fuse, on en reparlera tout à l'heure, peut-être un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, 23 février, l'éphéméride du jour, ce qui nous permet un petit peu de regarder en arrière sur ce qu'il s'est passé. Par exemple, le 23 février 1987, c'était la création en France de l'Institut de Recherche Criminelle. C'est pas si vieux que ça finalement, ça a une trentaine d'années, et c'est en fait une institution qui dépend de la Gendarmerie Nationale. Il n'y a pas de journée internationale aujourd'hui, 23 février, donc voilà, il y a une date qui est libre, et si on a une idée pour ce 23 février, et bien portez vos candidatures à l'UNESCO. En ce qui concerne des naissances, on va penser notamment à Alan MacLeod Cormac, qui est né un 23 février, c'était en 1924, qui est mort il y a une vingtaine d'années en 98. C'est un physicien sud-africain. Il est diplômé en physique et en cristallographie à l'université du Cap, donc en Afrique du Sud. Et après un séjour à l'université de Cambridge, il retourne travailler à l'université du Cap. Il se marie ensuite avec une physicienne américaine et donc il décide de s'installer aux États-Unis, il devient citoyen américain en 1966. Et son travail principal concerne la physique des particules, mais il va développer un intérêt particulier dans la radiographie. Et il va notamment établir les fondements théoriques de ce qu'on appelle la tomodensitométrie. Alors, c'est un nom que je ne me risquerai pas à évoquer dans cette émission avec une définition un peu complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a travaillé avec un ingénieur britannique qui s'appelle Hounsfield, et ils ont tous les deux construit le premier scanner. On est bien donc dans la thématique de l'imagerie médicale, et ils ont reçu tous les deux le prix Nobel de médecine en 1979, donc pour cette découverte importante en termes d'imagerie médicale. Il s'appelait Alan MacLeod Cormack, né un 23 février 1924. Pour un décès, on va penser à François Viette, et là ça nous remonte très 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 loin parce qu'il est mort un 23 février, mais nous sommes en 1603, donc ça fait un petit peu plus de 400 ans, et il est de famille bourgeoise, il est de formation juridique, il a été l'avocat notamment de grandes familles protestantes, il est maître des requêtes, il est déchiffreur de Henri IV, il est membre du conseil du roi, enfin bref, il a quand même une vie assez intéressante, et il mène parallèlement à ses charges au service de l'État, une carrière de mathématicien amateur, dit-il. Très bien, après tout, s'il avait le temps et si ça l'intéresse, pourquoi pas. Mais cette carrière lui vaut quand même l'estime des grands professionnels de son temps. Nous sommes au XVIe-XVIIe siècle. La publication de son livre phare qui s'appelle In Artem Analyticem Isagoge, qui est sûrement un livre de chevet intéressant, marque en tout cas ce livre le début de la révolution algébrique qui va fonder les notions de l'algèbre contemporaine. Il s'appelait François Viette, il est l'un des premiers mathématiciens en Europe à noter les paramètres d'une équation par des symboles. En fait, il fonde l'algèbre nouvelle, c'est une version un petit peu de notre façon actuelle de mener les calculs avec des symboles. Et également une partie de ses travaux qui est consacrée à l'astronomie, comme quoi il a vraiment touché à tout. Et il est également l'un des premiers cryptologues. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir essayer de casser des codes secrets. Voilà, François Viette, décédé le 23 février 1603. Alors effectivement, c'est un nom qu'on connaît peu, mais en tout cas, un scientifique et également un avocat assez intéressant avec un parcours. Comme quoi, quand on aime les sciences, dont le côté amateur, le fait d'aimer les sciences, nous permet de mener à pas mal de choses. Voilà, ça c'est l'éphéméride. Et comme vous le savez, 2019, c'est aussi l'année internationale du tableau périodique des éléments, c'est-à-dire que tous les éléments chimiques qui ont été identifiés ont été classifiés selon un tableau qui a été défini par un certain Mendeleïev. Vous avez peut-être encore en mémoire ce tableau affiché dans les salles de classe. Et donc, dans tous ces éléments, on essaye toutes les semaines dans cette émission de Biotine de s'intéresser à un élément, et au fur et à mesure nous allons compléter nous-mêmes ce fameux tableau de classification des éléments. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du chlore. Le chlore, c'est un gaz. Un gaz, quand il y a une température et une pression ambiante, on va dire, normale, et à l'état naturel, en fait, il y a deux atomes de chlore qui est présent, et c'est extrêmement toxique. Il a été employé comme arme chimique lors de la Première Guerre mondiale. C'est également un excellent désinfectant, un excellent antiseptique. Il est combiné à d'autres composés. On peut également l'utiliser sous forme solide et notamment dans le traitement d'épicides. On le sait, comme ça sent le chlore. Aujourd'hui, on estime à 140 000 tonnes de chlore utilisées chaque année pour garantir la qualité de l'eau de nos piscines. 140 000 tonnes. C'est quand même intéressant. Je trouve que c'est un chiffre assez effrayant. Alors, soit parce qu'il y a énormément de piscines, soit parce qu'on met énormément de chlore dans les piscines. Il a été découvert en 1774 par un Suédois qui s'appelle Carl Chill. Et en fait, il ne va pas réaliser l'ampleur de sa découverte sur l'instant. C'est un peu plus tard, en 1810, qu'Humphry Davy va refaire l'expérience et il va confirmer que le prédécesseur suédois avait bien découvert un nouvel élément, l'élément 17, celui du chlore. En fait, on a choisi le mot grec chloros. Chloros, ça veut veut dire vert, en référence à la couleur justement de ce gaz. Et donc, on a décidé de l'appeler chloros, ce qui a donné par la suite chlore, bien sûr. Le symbole chimique, c'est un grand C petit L. On ne s'est pas trop foulé pour le symbole. Et donc, le numéro atomique 17. Voilà, si vous avez un tableau périodique des éléments chez vous, je ne sais pas, pourquoi pas. Après tout, ça peut être une décoration intéressante. Vous pouvez remplir aujourd'hui la case 17 de ce tableau. C'est Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h que vous écoutez. Vous avez bien raison, 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir sur l'actualité en direct, avant de partir au Portugal, on va s'intéresser à l'album des Frères Parrish qui, on va écouter Fête foraine sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après.
Vivez l'aventure à la fête foraine.
Allons-y, on va rigoler. Ouais.
J'ai pas la migraine, tout près de chez moi, truc nouveau, c'est la fête foraine, le stand de tir m'attire. Je dégaine ma rengaine, me gagne et gagne mes points avec mon groin, c'est la pure dégaine.
L'attractivité de ces attractions se fait déjà sentir. J'affectionne l'activité avec l'envie de me divertir. J'ai 10 ma gourmandise, quoi que les gens disent, pique les friandises pour me goinfrer derrière la remise.
Y'a du vent, pire, une tornade de cannibales me suce sans pire. Il vit de mieux en pire, mon sens hésiter ne fait qu'un tour. Demi-tour, chant du train, fantôme, v'là les vautours qui me tournent autour.
C'est la fête foraine qui fait tourner la tête. De Mexique, mécanique, grippée. Si pour son tamponneuse, tout cas, toi, notre de guerre ou pas,
c'est la fête à Corée qui fait tourner la tête comme le grand 8. Mexique, mécanique, grippée. Si pour son tamponneuse, tout cas, toi, notre de galop.
Papa, je promène là-dedans comme un badaud.
Quel long voyage dans ma tête, je vois des collines, que dis-je, des montagnes dignes de la cordillère andine. Je troque le lama contre la chapka.
Le KGB, du KGB, du lait de chèvre à la vodka. Je vais tester les montagnes russes que le grand 8 se brosse. Je crame dans le chariot en fer rouillé tout plein de bosses. Un guingalé, brinque, balance sur un chariot roulant. Travailler en avant, dansant sur des rails roulants.
Ça me retourne le beat comme un mauvais trajet en bus. Jamais compris pourquoi on appelait ça les montagnes russes. Des manèges plus en plus petits qui se mettent en boîte. Une poupée géante avec des montées, des descentes impressionnantes.
Mon gala, t'es pas au galala.
T'es pas le mariole, sa cabriole dans la carriole. Il fait plutôt
gaga là-haut.
Mais je redescends car à chaque accident de manège, la tête dans les frites.
C'est la fête foraine qui te fait tourner la tête comme le grand 8 de Mexique, mécanique grippée. Je suis votre tamponneuse, tu cartonnes au-dessus de galop.
Papa, je promène la dent comme un badaud.
Mesdames, messieurs, veuillez sortir en randonnion. Étoile là-bas, vas-y, descend de ce wagon. La friture frivole, fil folle. J'ai vraiment pas le bol au milieu de canards, ça explose pas.
Y'a des feux partout, des cartes de pouce sous la fumée. Y'a des pompiers qui font des pompiers, c'est le pompon. Fête foraine, partie en fumée ou en sucette. Barba, papa, cacahuète, disons que c'est le feu cette fête.
Vaste fumisterie qui tourne vite à l'hystérie. Tout ce plastique fondu me ramollit l'esprit. Je fais pas quitte à cette foire, fête foireuse. En fait, c'est ta fête, cette fête n'est pas faite pour moi.
C'est la fête foraine qui fait tourner la tête comme le grand 8. Mexique, mécanique, grippée. Je suis pour ton tamponneuse, tu cartonnes, tu te galopes. Papa, je promène la dent comme un bateau. C'est la fête foraine qui fait tourner la tête comme le grand 8. Mexique, mécanique, grippée. Je suis pour ton tamponneuse, tu cartonnes, tu te galopes.
Papa, je promène la dent comme un bateau.
Eh bien, c'était Frères Parrish sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM en voiture ou chez eux. Et vous avez bien raison. Et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé. Il est samedi 12h16 ou il est mardi matin pour la rediffusion. Donc, il doit être à peu près 10h16 également. Et vous écoutez cette émission de science tous les samedis entre 12h et 13h où nous feuilletons la revue de presse de l'actualité scientifique. Je vous disais qu'on partait au Portugal avec cette cathédrale, la cathédrale Veila de Coimbra, qui a été achevée en 1218, oui, j'arrive plus à lire les chiffres, ça devient inquiétant. Et elle est considérée, cette cathédrale, comme un joyau de l'art roman. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la première cathédrale à avoir été construite au Portugal et la seule de l'époque de la Reconquête dont la structure, elle soit restée intacte jusqu'à nos jours. Et elle doit pourtant faire face aujourd'hui à une nouvelle menace. Et cette fois, c'est une menace microscopique. C'est une nouvelle espèce de champignon, des champignons noirs, qui sont en train de ronger petit à petit le calcaire et qui donc détruit les sculptures de cette cathédrale. Il y a des chercheurs de l'université de Coimbra qui viennent en effet d'identifier une nouvelle famille de moisissures sur les murs donc de cet édifice. Les moisissures noires sont connues pour leur rôle dans la dégradation des monuments historiques, et une fois colonisée, la pierre, elle devient noire, elle commence à se fissurer sous l'effet en fait des polysaccharides corrosifs qui sont produits par ces fameux champignons. Et en fait, ils vont essayer de croître d'une façon très très lente. Ces champignons, ils résistent à tout traitement chimique, physique, ce qui rend bien sûr l'élimination de ces champignons très difficile. Alors certaines sculptures de la chapelle présentent donc des signes de détérioration. Les chercheurs, ils ont prélevé des échantillons pour essayer de mener des analyses un peu plus avancées, et donc ils ont découvert que la moisissure n'appartenait à rien de connu jusqu'ici. Il s'agit d'une nouvelle espèce, d'un nouveau genre, d'une nouvelle famille. C'est ce qu'assure João Trovão, le principal auteur de cette étude, qui a été publiée dans la revue Mycocase, myco comme mycologie, donc on parle bien des champignons. Et on a donc essayé de nommer ce nouveau champignon noir qui s'appelle Aeminium lugeri. Il possède un potentiel destructeur aussi grand que ses cousins, et il pourrait être l'un des organismes les plus résistants à ce jour sur Terre. D'après donc ce chercheur, ces micro-organismes peuvent survivre à des températures extrêmes, à un rayonnement ultraviolet élevé, à des changements osmotiques importants et à de graves sécheresses. Ben non, c'est pas rassurant tout ça. Et il est assez tenace, c'est un constituant justement de cette caractéristique physique vraiment importante. Alors, ce champignon, il ne s'est pas retrouvé dans cette chapelle par hasard. En fait, on considère qu'il serait là depuis le départ. Il serait à l'intérieur même de la pierre. Et selon les chercheurs, le champignon serait endémique un petit peu des carrières de calcaire de la région ibérique. Donc il se retrouverait dans ces carrières de calcaire qu'on trouverait proche de cette région. Et il serait donc arrivé un petit peu dans la cathédrale lors de sa construction, et du fait de sa croissance tellement lente, comme je vous le disais, il aurait commencé son travail de sape que récemment. Il met son temps, mais finalement rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point, c'est-à-dire que ça fonctionne très très bien, mine de rien. Et si cette hypothèse serait avérée, ce qui n'est pas encore totalement le cas, cela fait craindre pour la pérennité d'autres monuments construits avec donc des pierres qui seraient issues des mêmes carrières. On pense notamment à plusieurs statues de vierges qui sont éparpillées un peu partout au Portugal, et notamment au portail de l'hôpital royal de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne également. Le transport du calcaire contaminé pourrait avoir contribué à la dispersion de cet agent destructeur. C'est ce qu'indiquent les chercheurs qui sont assez inquiets. Et pour l'instant, on ne sait pas quoi faire. On assiste de façon un peu impuissante à ces sculptures qui sont en train de se couvrir de noir et de s'effriter, les sculptures de cette cathédrale Veïla de Coimbra au Portugal. On a donc découvert un nouveau champignon et on ne sait pas quoi en faire. C'est assez effrayant, parce que là, franchement, on se retrouve totalement impuissant. Affaire à suivre donc, parce qu'on l'a identifié sur cette cathédrale, mais on se dit que ça pourrait également agir sur d'autres édifices. On verra ça, bien sûr. Je vous parlais dans le sommaire de cette émission du fait que la Lune devient, là encore, une destination prisée par pas mal de pays. Il y a eu le lancement du véhicule spatial israélien qui a eu lieu à Cap Canaveral aux États-Unis. C'était jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et c'est ce qu'ont précisé les responsables de Space EL et de Israel Aerospace Industries lors d'une conférence de presse. L'engin, il pèse 585 kilos. En fait, il ressemble à une espèce de chaudron posé sur des tréteaux. Et on a donc envoyé ça dans l'espace. Et on a utilisé pour cela une fusée Falcon 9 de la firme américaine Space EL. SpaceX. Tiens, on retrouve SpaceX dans l'affaire. Ce véhicule spatial doit atterrir sur la Lune le 11 avril prochain. Donc, on suivra tout au long de ces semaines son parcours. Un parcours qu'on estime à 6 500 000 km. OK. Et il va atteindre une vitesse maximale de 10 km à la seconde. Ce qui est quand même assez important. Parce qu'en une seconde, il fait 10 km. Si on transpose à une unité de temps qu'on connaît mieux, qui est le kilomètre-heure, ça fait quand même 36 000 km/h. Donc effectivement, c'est quand même assez rapide. L'engin, en fait, il comporte une capsule avec des disques numériques. Et dans ces disques numériques, il y a des dessins d'enfants, il y a des chansons, il y a des images de symboles israéliens. Il y a également les souvenirs d'un rescapé de la Shoah. Il y a également une Bible. L'idée, en fait, c'est de laisser tout ça sur la Lune comme témoignage pour les générations futures. Et nous entrons dans l'histoire. Et nous sommes fiers d'appartenir à un groupe qui a rêvé et accompli la vision partagée par de nombreux pays dans le monde, mais que jusqu'à présent, trois d'entre eux seulement ont accompli. C'est ce qu'a déclaré le président de SpaceX, qui est l'homme d'affaires et philanthrope Maurice Kahn. Effectivement, parce que jusqu'à présent, il y a eu la Russie, il y a eu les États-Unis et la Chine qui ont envoyé des engins sur la Lune. Il y a eu 12 astronautes américains qui ont foulé le sol lunaire lors des missions entre 69 et 72. Et ce projet israélien qui, dont le coût est estimé à peu près 100 millions de dollars, c'est quand même pas rien non plus, a été financé par des fonds privés, notamment par ce fameux homme d'affaires, Maurice Kahn, qui a mis 40 millions de dollars dans l'affaire, c'est pas rien. Et on a baptisé cet engin Bereshit, qui signifie Genèse en hébreu. Il est équipé pour mesurer le champ magnétique afin de récolter des données qui permettront de mieux comprendre la formation de la Lune. Et ces données seront partagées par la suite avec la NASA. Donc on est quand même bien dans une collaboration internationale. Et c'est quand même ça qui est intéressant. En fait, ce projet, il a débuté dans le cadre du projet Google Lunar X Prize. C'était en 2010 un projet qui offrait 30 millions de dollars pour encourager les scientifiques et entrepreneurs à proposer des missions lunaires peu coûteuses. Et en fait, ce prix, il a expiré l'année dernière. Il n'y a eu aucun gagnant, mais l'équipe israélienne, elle a voulu poursuivre sa démarche. Et le fait que, voilà, on arrive aujourd'hui à ce lancement de ce véhicule spatial israélien qui va donc atterrir sur la Lune. Le Premier ministre, israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré c'est un grand pas pour Israël et c'est un grand pas pour la technologie israélienne. Ok, il reprend la fameuse formule de Neil Armstrong, bien sûr. Mais voilà, on va fêter cette année les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Eh bien, même si la Lune à un moment a été délaissée par l'exploration spatiale, elle suscite à nouveau l'intérêt. Vous le savez si vous suivez cette émission, parce que on en parle de plus en plus de la Lune. La Chine, notamment, a fait atterrir à l'unir, on dit dans le cas de la Lune. C'était en janvier, on en a parlé, un engin. Ça, c'était sur la face cachée de la Lune et qui est encore inexplorée. Et donc, maintenant, les Israéliens partent sur la Lune. C'est, je vous dis, la nouvelle destination. Il faut à tout prix partir sur la Lune, c'est pas compliqué. 06 95 065 026, si vous souhaitez réagir par SMS. En direct dans cette émission, Biotine, vous écoutez Graphite sur le 94.9 FM et sur graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé, on va écouter cette fois Pyjama. Je trouve qu'à 12h25, c'est de circonstance. À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Me. Pixies, Seals and Pharrell, c'était tiré du dernier album Nice to Meet You de Pyjama sur l'antenne de Graphite. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir par SMS. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Alors comme je vous l'avais promis, on va partir à Nice également avec la ville de Nice qui a été autorisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fameuse CNIL, autorisée à tester un système de reconnaissance faciale sur la voie publique avec les caméras de vidéoprotection. C'est ce qu'a indiqué en début de semaine le maire Christian Estrosi. La ville a ainsi expérimenté cette semaine le logiciel de reconnaissance faciale dans l'enceinte du Carnaval de Nice et soulignant en fait qu'il s'agit d'une première en France sur la voie publique. Et à l'issue de cette expérimentation, un rapport sera remis à la CNIL dans un délai de 2 mois. Alors concrètement, l'expérimentation va permettre de tester différents scénarios. Alors par exemple, celui d'un enfant perdu dans la foule, d'une personne âgée vulnérable qui peut être elle aussi égarée, ou alors d'une personne dite d'intérêt entre guillemets, ce qui signifie qu'elle est recherchée. Il y a 6 caméras de vidéosurveillance qui seront mise en œuvre et positionnée sur le périmètre de test et donc limitée à une partie de l'enceinte du carnaval. Tout ça est encadré par la fameuse CNIL. Le test consiste à demander à 1 millier de volontaires venant au carnaval de jouer le rôle un petit peu de cobaye et d'accepter le principe de la reconnaissance faciale, ce qui permettra ensuite de rechercher parmi eux des personnes disparues ou suspectes dont les opérateurs de vidéosurveillance auront la photo. Les personnes qui ne seront pas volontaires auront le visage flouté et ne seront pas reconnaissable sur les images, nous dit-on. La CNIL a également imposé la pose de panneaux informatifs pendant cette expérimentation. Le logiciel en question, il s'appelle AliVision. Il les permet notamment de reconnaître quelqu'un, même si la photo a 30 ans, c'est ce qu'indique Jean-Philippe Claret, le président de Confidentia qui dispose de la licence de ce logiciel. Un logiciel qui permet également de reconnaître une personne qui va passer de profil devant la caméra, même si on a une photo de face qui a été fournie. Le maire rappelle que la ville de Nice compte à peu près 2350 caméras, c'est énorme. Ça fait une caméra pour 145 habitants et en fait Christian Estrosi, il y a déjà un bon bout de temps qu'il parle de cela, déjà en 2016, il voulait faire modifier la législation sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, notamment à l'occasion de l'Euro 2016 de football. Quelques semaines notamment avant l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais, il avait déjà demandé, sans succès à l'époque au gouvernement, l'autorisation d'utiliser cette technique à l'entrée de la fan zone qui était installée dans le centre-ville de Nice. Et plus récemment, en décembre dernier, il avait demandé au préfet de lui fournir la liste des individus fichés S de sa ville afin de pouvoir suivre toutes les allées et venues dans les transports en commun, dans les différentes artères de la ville, dans les lieux publics, de ces fameux individus en question, en utilisant pour cela un logiciel de reconnaissance faciale qui serait lié à l'ensemble des caméras de la ville. Donc, pour l'instant, il a eu l'accord de ce test grandeur nature à l'occasion du carnaval de Nice, encadré par la CNIL. On attendra donc le rapport qui va être fourni dans quelques semaines, on nous dit dans 2 mois, pour essayer de voir déjà si techniquement c'est réalisable. Et l'étape d'après, on n'est plus du tout dans le côté scientifique et technique, on est dans un côté législatif, de savoir voilà, qu'est-ce que l'on fait de ces données-là, où est-ce qu'on va un petit peu diffuser cette information, essayer de l'élargir, à voir également. En tout cas, voilà, d'un point de vue technique, la reconnaissance faciale se perfectionne et le fait d'avoir maintenant des logiciels qui peuvent reconnaître des personnes avec une photo vieille de 30 ans, c'est quand même assez... Enfin, je sais pas, moi, une photo de moi il y a 30 ans, j'étais un petit peu gamin, je sais pas si on serait capable de me reconnaître, ou une photo de face et vous passez de profil, voilà. Avoir également d'un point de vue efficacité pour ce logiciel, donc on suivra les résultats et le rapport final de la CNIL pour savoir si on pourra développer cette technologie par la suite.
Samedi 2 mars, la Grange à musique fait la part belle au One Man Band Blues. Armé de sa guitare en acier fabriquée dans les années 30, Kepa propulse l'auditoire sur les bords du Mississippi avec son power blues à classer entre Robert Johnson et Bob Log 3. L'Italien Billy Holfrick s'est forgé un blues crasseux, influencé par le Delta Blues,
le Dixieland de la Nouvelle-Orléans ou encore le Boogie. Et enfin, le duo Black Cat Joe and Miss Corina s'inspire directement de la culture populaire américaine des années 40 et 50. Retrouvez Kepa, Belly Hall Freak, Black Cat Joe and Miss Corina en concert, samedi 2 mars à 20h30 à la Grange à Musique, à Creil. Tarifs 10 et 8 euros, informations et réservations sur gamme-creil.fr.
Et puis il y a également le festival de Temps qui Fuse que je vous évoquais tout à l'heure, qui est organisé jeudi prochain à l'espace culturel de Tourotte avec le concert de Féroce, et vendredi prochain 1er mars aux Icodromes de Compiègne à partir de 19h30 avec 4 groupes qui seront présentés, et renseignements sur le site de graphite.net et billetterie en ligne sur le site helloasso.com. Comme on continue de feuilleter l'actualité scientifique de cette émission avec notamment le réchauffement climatique. Et on en parle. Et encore récemment, pas mal d'articles et d'études qui corroborent un petit peu cette évidence du réchauffement climatique. Alors, pour la première, ce sont les premiers bilans de 2018 qui ont été publiés il y a quelques jours concernant la tendance au réchauffement climatique sur le long terme qui se confirme. Il y a eu donc des études de la NASA et le constat est un petit peu le même, quelles que soient les études récentes qui viennent d'être publiées. 2018 fut la quatrième année la plus chaude de toute l'histoire des relevés de température. Ok, la quatrième. Alors, quelles sont les trois premières années? Eh bien, il ne faut pas chercher bien loin. C'est tout simplement 2017-2016. Oh, pardon, excusez-moi, c'est la première fois que ça m'arrive d'éternuer en direct. 2018 a été considéré comme la quatrième année de chaleur, mais c'est en fait la quatrième année consécutive, dans le sens où il y a eu 2017, 2016 et 2015. C'est quand même assez effrayant. Les cinq années les plus chaudes depuis 1880 sont dans la décennie 2010, avec 1,2 degré de plus qu'à l'époque pré-industrielle. Eh bien, l'année 2016, marquée par l'influence d'un puissant El Niño, conserve le statut d'année la plus chaude. C'est ce qu'indique l'Organisation météorologique mondiale. Et sans ce phénomène météorologique récurrent, eh bien, ça serait 2017 qui prendrait la tête du peloton. Si on revient à 2018, la température de surface moyenne globale était supérieure de presque 1 degré par rapport à une période de 30 ans qu'on va prendre à partir de la moitié des années de la moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que dans un laps de temps assez court, on constate bien une élévation de la température générale. Rappelons au passage que cette moyenne également assez récente de la fin du XXe siècle était au-dessus de l'ère pré-industrielle. Alors, naturellement, c'est une moyenne des températures à l'échelle planétaire, ce qui n'interdit pas, bien sûr, des disparités dans des températures régionales. Et c'est pas parce qu'il y a une vague de froid qui a traversé le nord-est et le centre des États-Unis que le changement climatique n'existe pas. Non, on est bien dans des tendances générales, bien évidemment. Au contraire, les modifications au niveau du vortex polaire pourraient bien être un effet indirect de la hausse de la température globale. D'ailleurs, l'Arctique et l'Antarctique vont mal. C'est là que les tendances au réchauffement sont les plus fortes. C'est ce qu'explique la NASA. Il y a une nouvelle étude qui prédit que le réchauffement global causé par les émissions excessives de gaz à effet de serre va entraîner des épisodes météorologiques extrêmes. Nos modèles suggèrent que nous verrons davantage de phénomènes météorologiques extrêmes récents, chauds et froids, avec des effets perturbateurs sur l'agriculture, les infrastructures et la vie humaine elle-même. C'est ce qu'explique le glaciologue Nick College dans une étude qui a été publiée dans la revue Nature. Alors, tout indique que nous y sommes déjà, en fait. Il y a une semaine, il faisait aussi froid en Amérique du Nord qu'en Antarctique. Tandis qu'au même moment, l'Australie souffrait de températures records. On avait mesuré 47 degrés à Adélaïde. Il y avait une sécheresse sans précédent qui a fait de nombreuses victimes animales. Ça commence mal pour 2019. Les effets du réchauffement planétaire à long terme se font déjà sentir. Des inondations côtières, une vague de chaleur, des précipitations intenses, un changement dans les écosystèmes. C'est ce qu'indique le directeur de l'Institut des études spatiales de la NASA, Gavin Schmidt. Les phénomènes météorologiques extrêmes ou à fort impact ont frappé une multitude de pays et des millions de personnes l'année dernière ont également été touchées. La communauté internationale doit donner la priorité absolue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux mesures d'adaptation au climat. Mais voilà, ça se confirme donc pour la 4e année consécutive, 2018, et donc l'année la plus chaude enregistrée depuis 1880. Et on parlera encore du réchauffement climatique après avoir entendu un titre du dernier album de la Maison Tellier qu'on va découvrir donc sur l'antenne de Graphite. L'album s'appelle Primitif Moderne et il va sortir dans un mois, fin mars. Et on va découvrir Ali en direct sur l'antenne de Graphite. A tout de suite.
Savait rien de moi.
Ali, c'était tiré du dernier album de la maison Tellier, Primitif Moderne, sur l'antenne de Graphite, 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir en direct sur l'actualité scientifique, n'hésitez pas, 06 95 065 026. Vous écoutez Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. On parlait tout à l'heure du réchauffement climatique. Il n'y a pas de raison qu'on continue parce qu'il y a d'autres articles qui ont été diffusés ces derniers jours, notamment ce qui concerne la couleur des océans, qui dépend notamment de la façon dont les rayons du soleil vont interagir avec l'eau et avec les éléments que contient cette eau des océans. Les molécules d'eau vont absorber la majorité de la lumière, mais pas les rayonnements bleus qui sont réfléchis. C'est pour ça que d'une façon générale, l'eau apparaît bleue. Quand des organismes sont présents dans l'eau, ils peuvent absorber ou réfléchir différentes longueurs d'onde. Par exemple, il y a du plancton, du phytoplancton qui contient de la chlorophylle. C'est un pigment qui va absorber des rayonnements dans le bleu et qui va donc réaliser de la photosynthèse et un petit peu moins dans le vert. Et c'est pour ça que les eaux de surface qui sont riches avec des algues microscopiques vont apparaître un peu plus vertes. Et depuis une vingtaine d'années, il y a des satellites qui prennent des mesures sur la couleur des océans. Des satellites qui apportent des informations sur la chlorophylle et donc sur le phytoplancton qui est présent dans différentes régions océaniques. Or, on constate que le changement climatique a des effets sur les écosystèmes marins et donc sur le phytoplancton. En plus d'élever les températures, eh bien on se rend compte qu'il affecte ce changement climatique, les courants océaniques qui apportent des nutriments. Et la couleur des océans, est-ce qu'elle va risquer d'évoluer dans les décennies à venir et comment? Eh bien pour le savoir, il y a des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, je bafouille aujourd'hui, c'est pas possible, j'en suis désolé, des chercheurs du fameux MIT, ils ont développé un modèle pour essayer de simuler la croissance de différentes espèces de phytoplancton en fonction des variations de température, et donc ils ont ainsi prévu la façon dont ce fameux phytoplancton va absorber et réfléchir la lumière, et donc ils vont essayer de prévoir la teinte que pourraient avoir les eaux de surface. Ils ont pu valider ce modèle avec les mesures réalisées par les satellites ces dernières années. Alors, plus précisément, les chercheurs ont fait une simulation en augmentant les températures de 3 degrés en 2100. Ce qui n'est pas totalement aberrant, c'est assez plausible si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas d'une façon globale sur la planète. Et d'après les scientifiques, plus de 50% des eaux des océans vont changer de couleur à cause du changement climatique. Dans les régions subtropicales, les eaux elles vont devenir plus bleues à cause de la diminution du phytoplancton et de la vie marine en général. Et d'autres régions vont gagner en couleur verte, c'est-à-dire plus près des pôles, notamment parce que le phytoplancton pourrait devenir plus abondant et plus diversifié. Donc dans un communiqué, l'une des chercheuses du MIT, elle s'appelle Stéphanie Dutievitch, elle a expliqué que le modèle suggère que les changements n'apparaîtront pas énormes à l'œil nu et que l'océan aura toujours l'apparence qu'on connaît un petit peu. Par contre, ça sera beaucoup plus détectable au niveau des satellites avec beaucoup de recul et selon certaines longueurs d'onde, des changements de couleur qui sont donc encore un signal d'alerte sur l'évolution de l'écosystème, car la croissance du phytoplancton affecte ensuite toute la chaîne alimentaire marine, y compris bien sûr donc les poissons, et ce phytoplancton joue aussi un rôle important dans l'absorption du dioxyde de carbone. Donc tout est lié. Si on a moins de phytoplancton, on accélère encore la dégradation. Une recherche qui a été financée en partie par la NASA et le ministère des Énergies des États-Unis et des résultats qui sont parus dans la revue Nature il y a quelques jours. Mais donc voilà, un changement climatique qui va changer la couleur des océans. En soi, changer de couleur, c'est pas grave, mais c'est toute la traduction qu'il peut y avoir derrière qui peut également être mise en place. Allez, on écoute un dernier titre dans cette antenne, sur l'antenne de Graphite, je vais y arriver, 06 95 065 026 si vous le souhaitez, puis on va continuer à parler du réchauffement climatique et on va partir en Australie qui veut planter 1 milliard d'arbres. Mon Dieu, on va en savoir plus tout de suite après ce titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
I'm a chick scout.
Rage Racer, c'est le dernier album de The Belgian Soul sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite 94.9 sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet le samedi entre 12h et 13h et le mardi matin pour la rediffusion entre 10h et 11h. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir en direct pour l'émission, n'hésitez pas. On va parler du réchauffement climatique encore, la suite et la fin dans cette émission, avec l'Australie qui va donc lancer un vaste programme visant à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2050, ce qui représente à peu près 400 000 hectares de forêts supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé fièrement il y a quelques jours, le 16 février, c'était le Premier ministre Scott Morrison. L'objectif, c'est de capturer 18 millions de tonnes de carbone supplémentaires d'ici 2030 pour se rapprocher en fait des objectifs des accords de Paris. Le pays fait pour l'instant figure de mauvais élève avec des émissions annuelles de 500 millions de tonnes qui ne cessent de grimper malgré les déclarations d'intention. Le charbon en fait représente encore les deux tiers de sa production électrique. L'annonce, elle survient d'ailleurs dans un contexte assez compliqué pour le gouvernement australien, qui est accusé pour son inaction en matière d'environnement, car depuis plusieurs mois, le pays est confronté à une vague de chaleur meurtrière et des inondations catastrophiques, on l'a évoqué tout à l'heure, et les scientifiques relient tout ça au réchauffement climatique. Le climat, en fait, ça ne semble pas pourtant être la préoccupation majeure de ce plan. L'objectif du gouvernement, c'est surtout de développer son industrie agroforestière. Les matériaux à base de fibres de cellulose pourraient par exemple remplacer le plastique, c'est ce que suggère le document publié par le ministère australien de l'agriculture. Le bois pourrait également trouver des débouchés dans la construction, les biocarburants ou la pharmacie. Le gouvernement espère ainsi créer 18 000 nouveaux emplois dans les 10 prochaines années. En fait, l'Australie n'est pas la seule à miser sur les arbres. La Chine, notamment, a déjà planté 66 milliards d'arbres le long du désert de Gobi depuis 1978. C'est ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte. L'idée, c'était de stopper l'avancée du sable. Il y a également le Pakistan qui a annoncé en juillet dernier que 10 milliards d'arbres seront plantés à travers tout le pays d'ici 2023. L'Inde a battu le record du monde avec 66 millions d'arbres plantés en seulement 12 heures grâce à un concours de plus d'un million de bénévoles, c'était en 2017. Même les villes s'y mettent également. En décembre dernier, il y a Milan qui s'était ainsi fixé un objectif de 3 millions d'arbres d'ici 2030 pour améliorer la qualité de l'air et l'environnement des habitants. Et ça semble fonctionner parce qu'il y a une toute récente étude qui vient de montrer que la planète verdit d'une façon générale. Elle a gagné 5 millions de kilomètres carrés de forêt depuis l'an 2000, soit l'équivalent de l'ensemble de la forêt amazonienne. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous ces programmes sont au final bien efficaces en matière de réchauffement ? Eh bien, le chercheur Thomas Quanter vient justement de présenter les résultats d'une nouvelle étude sur le sujet lors de l'Assemblée annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Et selon lui, planter 1 200 milliards d'arbres pourrait absorber suffisamment de dioxyde de carbone pour annuler 10 ans d'émissions humaines. Ok, c'est intéressant, mais il faut quand même se demander où est-ce qu'on peut essayer de planter ces 1 200 milliards d'arbres, parce qu'il faut quand même avoir des milliards d'hectares à ces vacances, ce qui ne semble pas encore être totalement le cas. Lui a dit on utilise des parcs et des terrains abandonnés, mais en tout cas, ça paraît assez utopique. Par ailleurs, les forêts, elles absorbent bien 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an, mais elles peuvent se transformer, ces forêts, en émetteurs de dioxyde de carbone en cas de sécheresse ou en cas d'attaque d'insectes. Et également au moment des incendies, parce qu'on nous indique que les arbres peuvent envoyer dans l'atmosphère en quelques heures tout le dioxyde de carbone qu'une forêt a patiemment accumulé au fil des années. Donc effectivement, c'est pas si idyllique que ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'annoncer des chiffres spectaculaires pour qu'un reboisement soit efficace, parce que si on revient sur les projets qui ont été évoqués, par exemple en Chine, on estime qu'à peine 15% des arbres qui avaient été plantés ont effectivement survécu. La monoculture de peupliers a été décimée par une maladie, et puis dans certains endroits, les plantations ont carrément aggravé la situation en pompant les rares ressources en eau et en éliminant les herbes qui fixaient le sol. C'est ce que rapporte rapporté dans un article récent le journal britannique The Economist. Et dans les villes, la grande barrière verte, justement, a finalement aggravé la pollution parce qu'elle a réduit la circulation du vent. Et donc, du coup, dans les grandes agglomérations chinoises, cette barrière verte a un petit peu bloqué les courants d'air, qui fait que la pollution stagnait dans les villes. C'est ce qu'a rapporté une étude de chercheurs chinois en 2018. Donc, l'Australie lance son projet. Elle est prévenue des différentes conséquences qu'il peut y avoir. C'est peut-être utopique, c'est peut-être intéressant. Est-ce réalisable? Affaire à suivre. Mais en tout cas, voilà, elle vient d'annoncer il y a quelques jours par son premier ministre le fait qu'elle veut planter 1 milliard d'arbres et donc pouvoir ainsi essayer d'atteindre ses objectifs en matière d'émissions de dioxyde de carbone, mais aussi, vous l'avez compris en parallèle, un petit peu booster son économie, parce qu'il y a toujours ça derrière, faut pas se leurrer. On suivra bien sûr l'évolution de ce projet gigantesque dans les prochains mois et les prochaines années, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission, on n'a pas eu le temps de parler des... En fait, c'est passé hyper vite cette émission, je ne l'ai pas vu le temps passer, mais on parle dans les prochaines émissions de cette annonce, de cette étude qui annonce le fait que le cancer du col de l'utérus pourrait avoir disparu à la fin du siècle. On en saura un petit peu plus dans une prochaine émission. Et on parlera aussi des régimes hyperprotéinés qui seraient apparemment mauvais pour la santé. C'est une étude toute récente qui nous vient de chercheurs australiens qui apporte un petit peu une information contraire par rapport à ce que l'on pensait de ces régimes hyperprotéinés. On suivra ça dans des prochaines émissions de l'antenne de Graphite. C'est la fin donc de cette émission. On se retrouve samedi prochain avec Carole qui revient pour l'émission de début mars. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des différents programmes sur l'antenne de Graphite. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts, bien sûr, de ces émissions. Merci de votre fidélité. À samedi prochain. Bonne journée à tous. En plus, il fait beau. Profitons-en. À bientôt. Au revoir.